Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Il y a trois règles fiscales au Portugal. Pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession. J'en suis pas encore là, mais je trouve ça sympathique quand même, parce que quand un mec a bossé toute sa vie en payant des impôts, le jour où il est mort, on lui reprend encore la moitié. C'est pas une honte, ça.
C'était en 2017. Florent Pagny expliquait au journal Le Parisien pourquoi il s'était exilé au Portugal. Et on l'a entendu, ce n'était pas seulement pour le soleil, pour les pastéis de nata ou pour le coût de la vie. Il ajoutait que ce ne serait pas con de changer les règles pour que les gens reviennent. On pourrait très bien vivre en France. À l'époque, le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'était pas parvenu à convaincre celui qui aimait aussi vivre dans la lointaine Patagonie à prendre le chemin du retour. Le chanteur mettra finalement 4 ans pour redevenir un résident français.
Si tu reviens, j'annule. Si tu reviens, j'annule tout.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser ou décrypter un sujet de l'actualité économique, sociale ou fiscale. Et aujourd'hui, si l'État n'est pas prêt d'annuler les droits de succession, la question d'un aménagement a fait une entrée aussi remarquée que surprenante dans la campagne.
Alors, qui va vraiment hériter de Karl Lagerfeld ?
Héritage Karl Lagerfeld, un héritage qui tient à un fil.
Et si c'était elle ?
Alors qu'il avait toujours affirmé vouloir léguer l'ensemble de sa fortune colossale à sa chatte Choupette, les rumeurs vont bon train.
Pauvre Choupette, elle ne verra peut-être pas un rond ni un ronron de la fortune du célèbre styliste. En droit français, les animaux ne peuvent pas figurer parmi vos héritiers puisqu'ils ne disposent pas de la capacité juridique pour recevoir. Et ce n'est sans doute pas prêt de changer, même si, aux surprises, la question des droits de succession a fait une entrée tonitruante dans la campagne présidentielle fin janvier.
Je veux que 95% des Français ne payent plus de droits de succession. Alors aujourd'hui, qui en paye ?
Ils sont déjà 85% à être exonérés aujourd'hui.
Oui, qui en paye surtout ? C'est souvent les successions en ligne indirectes qui sont évidemment les plus taxées. Vous héritez de votre oncle, de votre tante, de votre frère, de votre sœur. Donc je veux que ces successions, on double le plafond.
C'est le fruit d'une vie de travail qui a déjà été lourdement taxée, hyper taxée, retaxée. Il faut pouvoir la transmettre, expliquait Valérie Pécresse, candidate Les Républicains. Un argument qui fait mouche auprès d'une partie de son électorat potentiel, mais qui ramène très vite un corollaire, celui des inégalités sociales qui s'en trouveraient creusées un peu plus. La fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine total des Français, contre 35% au début des années 70. Nous sommes retombés au même niveau qu'avant-guerre, quand les politiques redistributives n'existaient pas, un effet notamment des taux bas et de la flambée des prix immobiliers. Le débat est ouvert et il est même devenu un sujet phare et discuté de cette campagne 2022. Bonjour Isabelle Coué.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service France des Échos. Les droits de succession dans le débat présidentiel, de tous les sujets économiques, c'est pas forcément celui qu'on attendait ?
Non, effectivement, c'est plutôt une surprise même. Le sujet n'avait pas été vraiment mis en avant lors de la campagne de 2017. On s'en souvient, il ne figurait même pas dans le programme d'Emmanuel Macron, par exemple. Donc la question des droits de succession s'invite aujourd'hui dans la présidentielle, sans doute parce qu'il y a eu une intense production de rapports de la part de plusieurs économistes. On a eu l'OCDE, la commission ensuite dirigée par Jean Tirole et Olivier Blanchard à la demande d'Emmanuel Macron, puis enfin le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché à Matignon, qui a publié un rapport en décembre. Alors, il faut dire que le sujet est porteur d'un point de vue électoral, hein, puisque beaucoup de Français sont persuadés d'être trop taxés, tous les sondages le confirment, et l'impôt sur les successions touche vraiment une corde sensible. C'est la famille, le fruit d'une vie de travail, etc. Donc là, on a une audience captive. Dans ces conditions, évidemment, promettre une baisse d'impôt fait forcément mouche. Alors qu'en réalité, bien quand on regarde les chiffres, moins de 30% des Français seront affectés par des droits de succession au cours de leur vie. Inversement, le sujet est aussi porteur auprès de ceux qui veulent faire payer les héritiers ou les ultra-riches. Et c'est vrai que les études montrent que le top 0,1 de la population ne paie que 10% d'impôts sur les successions, alors que le barème affiche 45%. Mais voilà, c'est un domaine où il y a beaucoup d'optimisation fiscale.
La mesure que j'ai portée lors du Congrès des Républicains, et qui était sans doute la mesure de mon programme la plus forte, est une mesure de rupture, la fin de l'impôt sur la mort, l'impôt sur les successions ou les donations.
On a entendu Éric Ciotti, invité de Caroline Roux sur France 2. Le député LR et soutien de Valérie Pécresse avait mis dans son programme à la primaire la suppression de cet impôt sur la mort. Isabelle, c'est un vrai thème qui divise, un vrai marqueur droite-gauche.
Absolument. Les successions, d'abord, nous ramènent à la question de l'accroissement des inégalités. Dans une étude de 2017, le think tank public France Stratégie expliquait que sur les 20 dernières années, le patrimoine a augmenté plus vite que les revenus et s'est concentré dans les mains des plus aisés. Et d'après ces calculs, la part des transmissions annuelles dans le revenu disponible des ménages passera de 19% aujourd'hui à 25% en 2050. France Stratégie a donc mis en garde contre le risque de voir la France se transformer en une société d'héritiers. D'où cette proposition reprise par beaucoup d'économistes et qui, évidemment, parle à la gauche. Au lieu de taxer les héritages transmis à chaque décès, il faudrait taxer le patrimoine total reçu par l'héritier au cours de sa vie. Comme ça, en gros, celui qui reçoit plus paie un taux plus élevé. À droite, ce qui retient plutôt l'attention, c'est que les classes moyennes supérieures sont les principales perdantes du système actuel. On parle de ces personnes qui reçoivent en moyenne 550 000 euros, celles qui héritent par exemple de la moitié d'un bien immobilier de leurs parents. Et donc, il serait question effectivement de soulager ces classes moyennes supérieures de cet impôt. Et puis, il y a aussi la question de favoriser la transmission vers la jeunesse, alors que les héritiers sont de plus en plus vieux. Et là-dessus, par contre, il y a moins de clivage. C'est un objectif partagé par la gauche et par la droite.
Il ressort quand même des sondages que 81% des Français souhaitent une diminution de l'impôt sur les successions, considérant qu'il est juste pour les parents de transmettre le plus possible à leurs proches, et ce même chez les sympathisants de la France insoumise, qui sont 61% à vouloir une diminution de la fiscalité. Alors on imagine que le diable est dans les détails, mais Isabelle, aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien rapportent les droits de succession?
Oui, tout à fait. Les droits de mutation à titre gratuit, comme on les appelle, rapportent 15 milliards d'euros par an à l'État. Cela représente 1,4% des rentrées fiscales et sociales. Alors, c'est assez peu, mais c'est plus que dans les autres pays de l'OCDE qui ont eux aussi des droits de succession.
Il me dit t'es impoli, mais au moins tu t'es pointé.
Il me dit t'es impoli, mais au moins tu t'es pointé.
Je ferai donc de toi mon unique héritier. Prends ma bouteille de force et tout ce que j'ai à léguer.
Prends ma bouteille de force et tout ce que j'ai à léguer.
Bon là, c'est sûr, la bouteille de Jaja du groupe québécois Mes Aïeux ne va pas être taxée. On verra un peu plus tard dans ce podcast ce que les candidats proposent, comment ils voient la refonte de la fiscalité de l'héritage dans leur programme. Mais de quoi parle-t-on? Qui paye et combien? Pour le savoir, je suis allé voir Marie-Christine Sonquin, c'est la rédactrice en chef du service patrimoine. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Pierrick.
France Stratégie a publié une note en 2017. Elle indiquait que la dernière réforme structurelle d'envergure de l'héritage remonte à 1901. J'avoue, j'ai eu du mal à le croire.
Oui, c'est quand même un petit peu un raccourci, hein, parce que depuis, ça a quand même pas mal bougé. Alors, si on se replonge dans l'historique, l'impôt sur les successions, ça vient, on s'en serait un petit peu douté, de la Révolution. Et comme tout bon impôt, ça a commencé par un taux extrêmement bas, hein, avec un tout petit taux fixe de 1%. Et puis alors, au fil du temps, ça a accru et embelli, comme on sait faire, bien sûr, en France avec tous les impôts. Et c'est sous la Troisième République, donc en 1901, qu'il est devenu progressif. Donc effectivement, on peut dire que le principe de l'impôt progressif sur les successions, ça date effectivement de cette époque-là, 1901, mais toujours à un taux quand même extrêmement bas, parce que le taux supérieur, c'était 2,5%, donc c'était quand même relativement acceptable pour les héritiers. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était pas confiscatoire. Mais alors, ça a grimpé quand même assez vite quand l'État a eu besoin d'argent, et c'est lors de la Première Guerre mondiale que l'État a eu vraiment un gros, gros besoin d'argent. Et donc, le taux marginal a atteint 40% en 1920. Alors, il a beaucoup rebaissé ensuite hein, pour remonter à nouveau. Donc, c'est quand même un impôt qui a beaucoup varié, en tout cas dont le taux marginal a beaucoup varié au fil du temps.
On a parlé avec Isabelle Coué de la note du Conseil d'analyse économique qui pointait les risques liés au vieillissement de la population et à la concentration du patrimoine. Pour alimenter le débat sur l'héritage, c'est faire le constat aussi que l'on hérite de plus en plus tard.
Alors là, on vient peut-être d'être un peu contredit avec le Covid, mais globalement, les courbes de mortalité, elles ont tendance à s'allonger. Hein. On ne mourra pas au même âge que nos parents. Quand on se rapporte au début du XXe siècle, bah, on héritait grosso modo à 30 ans. Maintenant, on hérite grosso modo à 50 ans. Donc, bien évidemment, quand on hérite beaucoup plus tard, on ne fait pas du tout la même utilisation de l'argent. Quand on a 50 ans, on a déjà construit sa vie, on a déjà acheté un appartement. Quand on hérite plus tôt, bah, effectivement, on a tendance à beaucoup plus dépenser, à beaucoup plus injecter de l'argent dans l'économie. Et donc, l'héritage n'a pas du tout la même dynamique. D'où l'idée d'éventuellement repenser l'héritage de façon à ce que les flux financiers n'aillent pas vers des gens qui ont déjà 50 voire 60 ans.
Oui, et de faire en sorte qu'il y ait une concentration effectivement du patrimoine. Alors c'est vrai aussi que quand on pense fiscalité en France, on sait que c'est souvent élevé, mais on pense aussi niche fiscale. C'est un des facteurs qui explique que l'héritage soit source d'inégalités.
Alors certainement, mais ces niches fiscales, elles ont aussi des raisons d'exister. Il y en a une qui est très souvent citée, c'est la niche fiscale du pacte Dutreil qui permet de transmettre des entreprises à un coût bien moindre. Mais c'est absolument nécessaire pour l'économie que d'avoir la possibilité de transmettre des entreprises sans avoir à payer un impôt sur les successions prohibitif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça mettrait par terre l'entreprise. Donc, il faut une pérennité, il faut une continuité. Et s'il y a des niches fiscales, c'est parce qu'elles sont nécessaires, c'est parce qu'elles s'expliquent. L'assurance-vie aussi est très probablement nécessaire parce qu'elle permet de transmettre de l'argent à des gens autres que ses parents proches. Sinon, c'est confiscatoire. Hein. Le taux, c'est 60%. Donc, grâce à l'assurance-vie, non seulement vous pouvez transmettre à moindre coût, mais vous pouvez aussi transmettre à qui vous voulez. Ça donne une liberté que ne donne pas simplement le Code civil.
On paye pas nos impôts, on profite tout des paradis fiscaux, on fait des millions, millions de piastres sur votre dos.
Il y a un très fort intérêt hein, des Français pour cette question de l'impôt sur les successions. Aujourd'hui, qui le paie ? Qui paie l'impôt sur les successions ?
Bah, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas l'impôt sur les successions parce qu'il y a quand même des abattements en ligne directe. Les enfants bénéficient d'un abattement chacun de 100 000 euros et la moitié des Français, en fait, va hériter de moins de 70 000 euros. Donc déjà, il y a 50% des gens qui sont de facto totalement exclus de ces droits de succession. Et à contrario, 10% des Français les plus riches vont hériter d'au moins 500 000 euros. Mais entre les deux, entre ces Français les plus riches qui vont pouvoir transmettre leur entreprise, qui vont pouvoir faire des montages de défiscalisation, qui vont être extrêmement bien conseillés, ben finalement, il va y avoir un espèce de trou noir. Et où se situe ce trou noir ? Ben finalement, ce sont les classes moyennes supérieures qui vont hériter pour chaque enfant de plus de 100 000 euros, mais qui n'ont pas non plus les moyens dont disposent les très grosses fortunes de transmettre complètement hors droit toutes ces énormes successions. Moi, je me souviens par exemple de la succession Dassault. On m'a posé des questions en me disant « Ah, mais ça va faire un trésor de guerre formidable pour l'État français puisque c'est une des plus grosses fortunes. » Mais absolument pas, parce que cette succession, par chance, évidemment, avait été très fortement anticipée. Tout était déjà organisé et il ne faut pas oublier que les très grosses fortunes, ce sont des fortunes professionnelles, ce ne sont pas des fortunes personnelles.
Oui, quand on dit que quelqu'un qu'il vaut 50 milliards, c'est la valeur généralement de son entreprise cotée en bourse. Hein.
Absolument. Alors, ça n'empêche pas, bien évidemment, que les héritiers vivent généralement très confortablement. Et en France, bah, y a toujours un petit regard d'envie sur ceux qui, apparemment, n'ont pas besoin de travailler pour vivre. D'où ce débat passionnel sur les droits de succession qui, finalement, ne concerne pas la majorité des gens, mais se concentre sur ces classes moyennes supérieures.
On sait, certains experts internationaux monégasques s'étonnent qu'en France, l'on ne crée pas plus d'emplois de rentiers. En effet, un rentier est un chômeur qui s'auto-indemnise.
Il y a un principe aussi hein, dans la question des héritages, des successions, c'est Vous le disiez un peu tout à l'heure, moins il y a de lien avec la personne décédée ou le donateur de son vivant d'ailleurs, et plus les taxes sont élevées.
Absolument, parce qu'en ligne directe, il y a un abattement de 100 000 euros donc, par enfant, qui bénéficie aussi au père ou à la mère, enfin, ce sont rarement le père ou la mère, heureusement, qui héritent. Et alors, cet abattement, il est considérablement réduit. Par exemple, quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur, l'abattement, il est seulement de 15 932 euros. Pour un neveu ou une nièce, c'est 7 967. Et il y a un petit abattement au général en l'absence d'autres abattements applicables qui est seulement de 1 594 euros. Quant au barème, alors là, c'est pareil. Quand il s'agit d'une ligne directe, eh bien, le barème commence à 5% pour aller jusqu'à 45% pour les tranches supérieures à 1,8 million, un peu plus d'1,8 million. Quand il s'agit de frères et sœurs, le barème, il commence déjà à 35% et il va jusqu'à 45%. Pour les parents, jusqu'au quatrième degré inclus, il y a un taux unique de 55%. Et puis alors, quand vous n'avez pas de lien, là, c'est 60%. Donc, c'est vraiment, on peut dire, confiscatoire.
Là, il faut que ça change. En tout cas, c'est une des recommandations du Conseil d'analyse économique.
Alors, je ne sais pas s'il faut que ça change, mais effectivement, ça paraîtrait assez logique d'avoir un taux moins confiscatoire dès lors qu'il ne s'agit pas d'un membre de sa famille proche, du moins d'un de ses descendants.
On entend souvent dire que la France est l'un des pays qui taxe le plus les héritiers. Qu'en est-il vraiment ?
Alors, il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti récemment, qui se penche sur le sujet. Et déjà, ce rapport souligne que depuis le début des années 2000, 15 des 35 pays développés de l'OCDE ont tout simplement supprimé l'impôt sur les successions. La France, en revanche, elle a fait le chemin inverse. Elle a augmenté la taxation des patrimoines transmis depuis 2011. Donc, on peut dire que quand même, la France se situe donc, parmi les pays qui imposent le plus les successions. Alors, il y a quand même des abattements qui sont considérables, puisqu'il ne faut pas oublier que l'époux ou l'épouse bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les successions. Alors ça, c'est aussi le cas dans 13 autres pays de l'OCDE. Mais les enfants, eux, sont totalement exonérés aussi dans 6 pays. Et ce n'est pas du tout le cas en France, parce que ça peut monter, comme je le disais tout à l'heure, assez rapidement jusqu'à 45%. Donc, il y a vraiment quand même un gap entre la France et les autres pays. Et puis, dans pas mal de pays développés, il y a des seuils d'exonération qui sont nettement plus importants. Ça va de 17 000 dollars en Belgique, dans la région de Bruxelles, jusqu'à plus de 11 millions de dollars aux États-Unis. Donc, quand vous héritez déjà de plus de 11 millions de dollars, bon, c'est quand même un abattement qui est pas tellement comparable avec nos petits 100 000 euros français. Donc, c'est vrai que certains qui veulent augmenter les droits de succession, on leur dit un peu, oh là, est-ce que ça va pas être repoussoir pour les fortunes françaises qui auront peut-être envie de s'installer ailleurs pour bénéficier quand même d'une fiscalité nettement plus favorable.
Mais sachant qu'on le disait, hein, il y a tout de même ces niches fiscales qui permettent là aussi d'atténuer cette impression d'une France qui taxe trop.
Oui, il y a des niches fiscales, mais comme je le disais tout à l'heure, elles sont quand même utiles, ces niches fiscales. Elles sont pas totalement gratuites. Est-ce qu'il faut, par exemple, imposer autant qu'on le fait la résidence principale dans la mesure où l'immobilier a pris énormément de valeur ces dernières années? Ça peut être un gros, gros problème pour des transmissions qui ne sont pas forcément des transmissions excessivement importantes, mais qui vont poser problème à des classes moyennes supérieures. Alors certes, il y a un abattement de 20% sur la résidence principale, mais quand vous voyez qu'à Paris, on est à plus de 10 000 euros le mètre carré, les appartements d'un million, c'est monnaie courante. Et quand les parents décèdent et qu'il faut payer des droits de succession sur un bien qui certes est liquide, mais enfin qu'il faut quand même arriver à te vendre dans de bonnes conditions, ça reste problématique.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
J'ai caché là, dans ma maison, dans le...
Il faut voir cette publicité des notaires belges, la chasse à l'or entre les descendants qui tournent au film gore avec tronçonneuse et masse, sont des récidivistes d'ailleurs en la matière que ces notaires belges.
Écoute, j'ai trouvé le slogan pour la campagne. Du notaire au cimetière, nous vous accompagnons toute votre vie.
Marie-Christine, le message aussi, c'est qu'une succession, ça se prépare de son vivant si on ne veut pas laisser ses descendants dans la panade.
Alors, absolument, ça se prépare de son vivant. effectivement, peut-être pour payer moins de droits de succession, c'est quand même un objectif qui n'est pas négligeable, mais aussi et surtout pour préserver la paix des familles. Parce que quand on s'est soucié absolument de rien, on s'aperçoit que les héritiers se déchirent. C'est là aussi parfois où il peut y avoir des problèmes fiscaux. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on fait, par exemple, des donations. Quand on fait des donations qui ne sont pas des donations partage, eh bien, ce qu'on a donné en donation simple, la valeur n'est pas figée. Ce qui fait que quand on a fait une donation et qu'on décède 30 ans après, on a fait une donation par exemple d'un appartement et qu'on décède 30 ans après, la valeur de l'appartement est immense. Et donc celui qui a perçu cette donation peut devoir une récompense à ses frères et sœurs. Alors c'est un exemple que je vous cite, mais ça peut créer des problèmes de famille incommensurables, des problèmes fiscaux aussi. Les familles se déchirent. Enfin, on ne compte plus d'ailleurs les scénarios qui sont fondés sur ces problèmes d'héritage.
Isabelle, je reviens vers vous. Il y a une volonté de refonte de la fiscalité des héritages. Que proposent les candidats ?
Schématiquement, la droite veut relever le montant de l'abattement fiscal, qui est aujourd'hui fixé à 100 000 euros par personne pour une transmission en ligne directe. Et la droite veut aussi préserver les dispositifs d'exonération, comme l'assurance vie ou le pacte Dutreil pour la transmission d'entreprise. Enfin, il y a une volonté de favoriser les donations. Par exemple, Valérie Pécresse veut réduire de 15 à 6 ans le délai entre deux donations défiscalisées. La gauche, elle, s'inspire des recommandations des économistes qu'on a mentionnées plus tôt pour rendre l'impôt plus progressif et faire payer davantage les plus riches.
Yannick Jadot veut par exemple instaurer un abattement jusqu'à 200 000 euros sur l'ensemble du patrimoine hérité tout au long de la vie et supprimer les niches. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il veut créer un héritage maximal de 12 millions d'euros.
Au-delà de 12 millions, je prends tout. Je répète, au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi.
Il n'en avait pas parlé lors de sa campagne en 2017, vous le disiez. Quelle est la position d'Emmanuel Macron qui n'a pas enclenché ce chantier durant ce quinquennat finissant ?
Oui, alors pendant le quinquennat, certains dans son camp ont voulu mettre le sujet sur la table, mais Emmanuel Macron n'a pas voulu en entendre parler. Alors récemment, dans une interview au Parisien, le chef de l'État a dit qu'il voulait favoriser les transmissions populaires. La proposition reste très très vague et elle semble surtout oublier que la plupart des Français, comme on l'a dit, ne sont pas concernés par l'impôt sur les successions car ils reçoivent un héritage trop faible. Alors, peut-être qu'il pourrait alléger les prélèvements sur les transmissions en ligne indirecte, un neveu, une famille recomposée, ou bien proposer un dispositif pour favoriser les jeunes.
Est-ce qu'on a chiffré le coût pour les finances publiques de ces différentes propositions ?
Oui, alors globalement, ceux qui veulent augmenter le montant défiscalisé vont faire perdre des recettes à l'État. L'Institut Montaigne, qui a fait un chiffrage, parle de 2 à 3 milliards de moins chaque année avec la proposition de Valérie Pécresse de doubler l'abattement. Inversement, la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'augmenter les droits de succession sur les plus hauts patrimoines et de créer un héritage maximal de 12 millions rapporterait entre 7 et 9 milliards. 7 milliards si on estime que sa mesure entraînera, et c'est probablement le cas, des changements de résidence fiscale.
Ouais, c'est-à-dire des gens qui pourraient aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Les candidats ont des idées pour réformer l'héritage. Ça veut dire que ce sera l'un des chantiers du prochain président ?
Oui, s'ils vont vraiment au bout de leurs promesses. La problématique de la réindustrialisation ou du pouvoir d'achat, même si c'est un peu lié aux successions, pourrait quand même s'avérer plus prioritaire.
On a vu avec Isabelle que ce sera sans doute l'un des dossiers qui pourrait atterrir sur le bureau du prochain président de la République. En tout cas, c'était une question qui a beaucoup occupé en ce début de campagne électorale. On comprend bien aussi qu'une réforme globale de l'héritage, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Mais Marie-Christine, le Conseil d'analyse économique n'a pas été tendre avec un produit, l'assurance vie. Est-ce que c'est un produit menacé ?
Alors, c'est difficile de dire si c'est menacé, parce que les avantages fiscaux de l'assurance-vie ont été quand même reniés au fil du temps. On arrive maintenant à un régime fiscal qui reste avantageux pour transmettre, mais néanmoins, on voit que les plus gros contrats sont quand même plus lourdement taxés que les autres. Ça ne permet plus de transmettre totalement hors impôt. Alors, est-ce qu'on peut imaginer d'alourdir encore cette taxation ? C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est vrai que le régime fiscal essentiel de l'assurance vie, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est excessivement compliqué. Parce que ça dépend de la date à laquelle vous avez souscrit le contrat, ça dépend de la date de vos versements et ça dépend de votre âge lors des versements. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, c'est pas très lisible pour le commun des souscripteurs. Et cette complexité est peut-être aussi une source d'inégalité entre les contribuables.
Merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef du service patrimoine, et merci Isabelle Coué, journaliste au service France des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.